Bonjour tout le monde. Alors, comme l'abbé Campeau vous a dit, je m'appelle Danielle et je suis missionnaire laïque depuis 16 ans. Quand on me demande d'où ça me vient, ça me vient depuis ma toute petite enfance. J'étais pas beaucoup plus vieille que ces deux tout petits-là. La première fois où j'ai pris conscience, j'avais peut-être entre 3, 4 ans, 5 ans maximum. J'allais pas encore à l'école quand j'ai pris conscience qu'il y avait de la pauvreté dans le monde. Et puis, ça m'avait immensément touchée parce que moi, je pensais, dans ma petite tête d'enfant, que tout le monde, on était tous pareils, qu'on avait tous la même chance. Et comme j'étais la plus jeune de 8, alors mes frères et sœurs arrivaient à la maison avec des petites cartes qu'on appelait des petits chinois à l'époque, qu'on achetait ça pour 10 sous. Et puis, moi, ça m'avait touchée. Alors, j'ai fait une collection de ces cartes-là. Je leur donnais des noms, je jouais avec eux. Puis déjà, à cet âge-là, je savais qu'un jour, j'allais faire quelque chose pour aider mon prochain. Mais comme en grandissant, j'ai rencontré l'amour de ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Alors, c'est seulement quand mes enfants sont devenus de jeunes adultes où j'ai eu la chance de faire un premier voyage. Et je suis allée à Calcutta, en Inde. Donc, c'est auprès de les petites sœurs missionnaires de la Charité, qui sont la congrégation de Mère Teresa, où j'ai eu la chance de faire l'apprentissage de l'humanitaire. Puis, au cours des 6 mois que j'ai été là-bas, j'ai touché à peu près à toutes les maisons de Mère Teresa, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis, le dernier travail que j'avais fait avec les sœurs, c'était ce qu'on appelait le travail de rue. Alors, le matin, on partait très, très tôt avec des sacs à dos qu'on remplissait de médicaments, d'eau, de nourriture aussi, pour pouvoir aider les gens sur place. Et puis, on nourrissait ou on soignait les gens sur les quais de gare de train quand c'était possible. Et ceux qui avaient vraiment des plaies trop importantes, à ce moment-là, on les ramenait avec nous au mouroir de Mère Teresa. Qui est devenu un petit peu avec les années l'urgence des pauvres, si vous voulez. Alors, ils recevaient les soins qu'ils avaient besoin. Et puis, quand ils recevaient leur congé, la deuxième tâche qui nous était assignée, c'est qu'on devait aller les porter exactement là où on les avait trouvés. Et puis, on leur donnait 1 litre d'eau potable avec un sac de mouri. Du mouri, c'est la nourriture des pauvres en Inde. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à du Rice Krispies. Les Indiens vont mêler ça avec de l'eau, puis ça vient comme si vous voulez ôter la douleur que causent les crampes d'estomac quand on a faim. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant, mais on les laissait sur place avec ça. Alors naturellement, c'était difficile pour eux de revenir à la case départ, mais c'était aussi parfois très difficile pour nous parce que certains... Ils s'accrochaient à nous, ils nous suppliaient de ne pas les laisser, ils voulaient revenir avec nous, mais malheureusement, il n'y avait pas de place pour les laisser. Et puis ça, c'est la partie très difficile que j'avais trouvée tout au long de mon voyage. Puis à un moment donné, quand j'étais revenue au mouroir de Mère Teresa, j'avais demandé à Sister Pinin, qui s'occupait du mouroir à ce moment-là, je lui avais demandé comment ça se fait que Mère Teresa, dans tout ce qu'elle a fait en Inde, qui est super grand et beau, comment ça se fait qu'il n'y a pas une maison de transition où on pourrait aider ces gens-là davantage, de laisser de les remettre socialement sur pied. Et puis, Sister Pinin m'avait fait comme réponse que Mère Teresa, dans son immense foi en Dieu, mais elle était convaincue que Dieu allait mettre sur leur chemin d'autres personnes pour faire ces tout petits bouts de chemin-là parce qu'elle ne pouvait pas, elle seule, venir en aide de façon globale à tous ces gens-là. Et puis, naturellement, moi, c'est venu encore une fois chercher cet appel-là que j'avais depuis que j'étais petite. Puis c'est vraiment à ce moment-là de ma vie où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, où je me suis dit... Mais pourquoi ce ne serait pas moi qui n'essaierais pas de faire ce tout petit bout de chemin-là avec eux? Alors, à mon retour de mon voyage au Canada, dans mes prières, j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, si c'est vraiment, vraiment toi qui m'appelles dans cette mission-là, d'abord, merci de m'emplir de force et puis de courage, le courage d'affronter mes peurs, le courage de laisser derrière moi ma petite famille, mais surtout merci de m'emplir de l'Esprit-Saint pour que je puisse le faire dans cet amour-là que tu nous demandes d'avoir les uns pour les autres. Et puis, au fil des semaines qui ont suivi, quand je parlais du projet, que je parlais de mon voyage avec des amis laïcs et des prêtres avec lesquels je suis amie également, on a formé, on est un tout petit groupe qui a formé ensemble Mission Partage. Et puis, ça fait maintenant 16 ans que je fais ça, que je pars à chaque année pour aller en mission. Ce qu'on a fait en Inde jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une maison, justement, qui s'appelle Achabari, où les gens qu'on ramène du mouroir, justement, qui reviennent, mais qui sont aptes à reprendre un petit métier, on leur apprend des métiers, aux hommes, aux femmes, on apprend des métiers pour qu'ils puissent reprendre leur cours de leur vie, et ça fonctionne très, très bien. Et pour les enfants, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scolarisé plusieurs orphelins, au-dessus de 250. Et puis, ça aussi, c'est un beau projet qui fonctionne bien parce qu'on a des grands garçons qui ont autour de 19 ans et puis qui travaillent maintenant à réparer des ordinateurs, donc qui sont capables d'être fonctionnels à l'intérieur de leur pays. Et certains d'entre eux ont été capables de s'acheter une identité parce que tous ces enfants-là sont ce qu'on appelle en Inde des « outcasts ». Donc, ils ne font pas partie d'aucune classe sociale. Et ce qui fait, c'est qu'ils n'existent pas sur papier dans le pays. L'État ne sait pas qu'ils existent. Donc, avec le temps, avec le travail, c'était notre espoir qu'ils puissent s'acheter une identité capable d'être fonctionnelle. Et on a aussi aidé les enfants handicapés, qui est une autre problématique de l'Inde, parce qu'on se sert d'eux pour les faire mendier. Mais l'argent ne revient pas à l'enfant, l'argent revient aux personnes qui se servent d'eux. Parce que plus l'enfant est rachitique, plus il est maigre, plus il est malade, bien, plus il est payant. Donc, il leur donne le minimum pour qu'ils survivent, puis ils s'en servent de jour en jour. Alors, le frère Xavier voulait essayer de mettre fin à ça, du moins en partie. Et puis, on l'a aidé dans ce cheminement-là aussi, soit à bâtir un établissement pour eux. Et pour en ce qui les concerne, ils apprennent à lire et à écrire, mais ils apprennent aussi un métier selon leur handicap. Alors, ils peuvent fonctionner. Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années, c'est depuis 2003 qu'on a fait ça. Et puis, aujourd'hui, ces jeunes-là ont une petite coop, si vous voulez, et puis ils déposent une partie de l'argent qu'ils font pour acheter du nouveau matériel et ils sont capables d'être fonctionnels. Alors, on est très, très, très fiers de ce projet-là. Maintenant, en 2009, j'ai eu la chance d'aller en Afrique avec le père Moumina et puis je suis allée au Congo. Et puis, quand on est arrivé au Congo, je me suis rendu compte qu'il y avait une similitude au niveau des enfants. En Inde, c'était les outcasts et du côté du Congo, c'était les enfants soldats et les enfants qu'on appelle sorciers. Alors, les enfants soldats, naturellement, sont utilisés pour la guerre. Et puis, mais certains d'entre eux, on est capable de les récupérer. On ne peut pas aller sur place dans les groupes de rebelles parce que ce serait trop dangereux pour nous. Mais Ali, lui, était avec son petit frère. Et les rebelles sont arrivés dans leur village. Ils ont tout détruit, ils ont tout brûlé. Ils ont tué les adultes et ils ont gardé que les enfants pour en faire des enfants soldats. Et Ali et son petit frère ont fait partie de ces enfants-là. Et puis, il a passé dans ces camps-là autour de 6 mois. Et puis, à un moment donné, un soir où les soldats faisaient une beuverie, tout le monde était quand même assez saoul. Alors, Ali a décidé de se sauver avec son petit frère. Alors, ils ont couru, couru, couru sans arrêt. Et puis, à un moment donné, quand il s'est arrêté, il s'est rendu compte que son petit frère n'était plus avec lui. Donc, il l'avait perdu. Alors, lui a continué de courir pour sa survie à lui. Et puis, il a été retrouvé avec sœur Françoise, qui l'a recueilli à l'orphelinat. Puis, Ali a été 2 à 3 ans sans parler. Tout le monde pensait qu'il était sourd et muet ou qu'il était attardé d'une certaine façon. Et puis, ça a pris tout ce temps-là à digérer tout ça. Et d'année en année, moi, j'allais et je m'occupais du petit Olivier dont je parlais ce matin. Et puis, un jour, il est venu à moi, puis il m'a demandé, « Maman Danielle, est-ce que tu veux t'occuper de moi aussi? » C'est là qu'on a réalisé qu'il était capable de parler. Et Ali a mis des années à se remettre de ça, mais aujourd'hui, c'est un garçon qui fonctionne très, très bien. Il a 20 ans, il est à l'université, et puis il fonctionne très, très, très bien actuellement. On est très, très contents de lui. Et puis j'ai raconté aussi un petit peu l'histoire d'Olivier ce matin. Olivier, lui, c'était dans les enfants sorciers. Il arrivait de l'école comme à tous les jours, et puis quand il est arrivé à la maison, sa mère était sur le point d'accoucher. Alors on a demandé à Olivier d'aller chercher de l'eau à la rivière pour procéder à l'accouchement. Et par le temps qu'Olivier est revenu, sa mère était décédée. Alors on a attribué à Olivier d'être porteur d'un mauvais sort, donc d'être un enfant sorcier. Et il a été jeté en dehors de son village. Et la façon dont on les chasse, c'est la même chose qu'on lit dans la Bible, ils sont lapidés. Alors Olivier a été immensément béni dans sa malchance puisqu'il a survécu à la lapidation. Lui aussi a été recueilli à l'orphelinat de Sœur Françoise. Et puis maintenant, ce sont des enfants qui sont scolarisés et qui vont très, très, très bien. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous parle d'eux ce matin. C'est qu'on scolarise, comme l'abbé vous a dit, ces enfants-là dans le but de les aider à devenir autonomes puis être capables un jour de prendre soin d'eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas de famille derrière pour le faire. Donc, l'argent qui va être ramassé aujourd'hui va servir à scolariser ces jeunes-là. Et puis, je vais être à l'arrière de l'église, à la fin de la messe, sur les côtés, il y a des paniers aussi. Alors, tous ceux et celles qui veulent bien aider à scolariser les enfants, vous êtes plus que bienvenus. Et puis, ceux qui donneront des montants de 10 $ et plus et qui veulent un reçu de charité, il y a des enveloppes à côté des prions. Vous avez juste à écrire lisiblement vos noms et adresses pour que je puisse vous relire, et puis vous allez pouvoir avoir les reçus de charité ensuite. Maintenant, à l'hôpital général du Lakeshore, là où je travaille, il y a plusieurs questions qui me sont posées. Celles qui me sont posées le plus souvent, c'est pourquoi je choisis de faire ça? Pourquoi à chaque année je m'en vais dans ces endroits-là? La raison est simple, c'est parce que j'y crois du plus profond de mon cœur à ce bel amour-là que Jésus nous demande d'avoir les uns pour les autres. Puis pour moi, ça implique aussi de nous aider les uns les autres. Puis une autre question qu'on me pose aussi souvent, c'est qu'on me demande, « Ouais, mais Daniel, là, entre toi et moi, là, honnêtement, est-ce qu'on change vraiment quelque chose dans leur vie? » Puis moi, d'emblée, je vous dis que oui, parce que je le vois, ce changement-là. C'est une des raisons qui me motive de retourner d'année en année. Comme je le disais ce matin, quand on les trouve, les enfants, ils ont les yeux éteints, il n'y a plus d'espoir parce qu'ils ont été rejetés par leur famille, ils ont été rejetés par le village, ils sont rejetés par l'État parce que personne ne fait rien pour eux. Donc, ils n'ont plus d'espoir du tout, du tout. Et puis, au fil du temps, en les aidant avec de la patience et avec de l'amour, on arrive à retrouver cette lumière-là, cette clarté-là dans leurs yeux. Puis les enfants me demandent aussi, « Bien, maman, Daniel, pourquoi les gens dans ton pays, ils nous aident? » Puis je leur dis, « Mais c'est parce que tout comme moi, ils croient en Jésus. » Puis là, ils demandent, « Mais c'est qui Jésus? » Bien là, on explique qui est Jésus dans nos vies. Et puis ensuite, certains qu'avec les religieux et religieuses qui sont sur place, il y a de l'évangélisation qui se fait. Et ces enfants-là sont élevés ensuite dans la foi catholique à l'orphelinat. Alors, ça nous permet d'avoir de très, 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 très beaux résultats et on est vraiment très fiers d'eux. Alors, en terminant, je veux vous dire un immense merci d'abord de votre patience de m'avoir écouté. Merci à votre curé François qui est absent, puis à votre curé assistant, l'abbé Campeau, qui m'a reçu avec grandeur d'âme aujourd'hui. Mais d'abord et avant tout, merci à Dieu, parce que pour moi, Mission Partage, c'est pas Daniel Lorrain, c'est d'abord et avant tout Dieu qui travaille à travers moi, mais qui travaille à travers chacun de vous, qui met sur mon chemin, parce que Mission Partage, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que moi. Alors, d'avance, je vous dis un grand merci pour votre générosité et bon dimanche. Merci.